RMC, 9h midi, les grandes gueules en direct de Marseille.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Écoutez le plateau. Ah, écoutez, on va vous raconter les coulisses, parce que là, d'un coup, les grandes gueules sont revenues à tout berzingue.
C'est magnifique, là.
Du bout de la terrasse, parce qu'en fait, on essaie d'apercevoir, on le voit, alors on a un temps qui est dégagé, on essaie d'apercevoir le Bel Aim.
On le voit, regarde sur la ligne d'horizon, tu as le Bel Aim qui est accompagné par des bateaux. D'ailleurs, il y a des milliers de bateaux qui sont sortis du vieux port de Marseille pour accompagner le trois-mâts. Et on le voit, Didier.
On le voit très bien. Ouais. Moi, enfin, j'ai une bonne vue de loin, mais on voit très bien les mâts qui se détachent à l'horizon.
Voilà, il est à 4-5 000 de la côte.
Ça vous plaît, Marseille, les gars?
Alors, justement, vous entendez sa voix, c'est Renaud Muselier, on accueille notre invité.
RMC, les grandes gueules.
Renaud Muselier, le président de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, qui est avec nous, avec Joël Dagosséry, Didier Giraud, avec Mehdi Guézard. Bonjour, monsieur le président.
Bonjour à vous tous et toutes, merci d'avoir rejoint le plateau, plutôt de regarder sans arrêt la mer avec l'Armada, le bateau de CMA-CGM et le Bel Aim qui arrive, oui c'est beau chez
vous. Les grandes gueules sont comme des gamins, avec la mer, le soleil, les bateaux, mais Renaud Muselier, c'est vrai que ces derniers temps, on a parlé de Marseille comme étant une narco-ville, on parle des règlements de compte, on parle de tout ce qui ne va pas, et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, Marseille, c'est un autre visage qu'on va voir, c'est-à-dire un visage beaucoup plus positif.
Bah, c'est-à-dire que Marseille, vous avez tout et son contraire. C'est-à-dire que vous avez un des plus gros armateurs du monde, avec les plus grosses fortunes de la région, et en même temps, vous avez les quartiers les plus pauvres d'Europe. Ouais. Marseille, vous avez, si on regarde le littoral, puisqu'on parle de la mer aujourd'hui, vous avez le grand port maritime, qui est un des plus grands ports français et européens. Et en même temps, à côté, on a la marina, et on va voir les épreuves de voile et de mer. Donc, c'est une ville de contraste. Et c'est sûr qu'en général, de toute façon, c'est très français. On ne parle que ce qui va mal. Alors qu'aujourd'hui, on ne va parler que ce qui va bien.
Et aujourd'hui, vous êtes fier d'accueillir le Bel Aim, d'accueillir la flamme olympique?
Ben c'est pour la petite histoire quand même. J'étais premier adjoint au maire quand en 2014, nous sommes battus pour battre La Rochelle dans le cadre de la candidature de Paris aux Jeux Olympiques. J'avais accompagné Madame Hidalgo et Monsieur Estanguet en Amérique du Sud pour gagner 2024. Et donc ça fait 10 ans maintenant. Et au bout de 10 ans, ben voilà, on a accueilli le monde entier ici à Marseille pour la France. Au moment où le monde est complexe, difficile, compliqué, bon ben c'est un moment de joie, de bonheur.
Justement, il faut une trêve olympique. On parle même de trêve sociale, de trêve diplomatique à l'échelle de la planète. C'est ce que disait Emmanuel Macron au président chinois. Il faut une trêve diplomatique. Est-ce que nous, ici en France, on est capable d'avoir cette trêve et enfin arrêter de se disputer, de se fracturer pendant le temps des Jeux?
C'est un peu comme en religion. Il y a le carême, il y a des moments où on doit faire un peu attention. Bon, mais regardez même cette trêve olympique, on devrait s'imposer tous, en tout cas le respecter. Est-ce que même les grandes gueules sur le plateau se l'imposent?
Ça va être difficile.
Voilà. Donc vous pensez
un peu. Mais Renaud, est-ce qu'à un moment, ça serait plus les grandes gueules?
Justement, ça serait plus les Français, ça serait plus le monde. Voilà. Non, mais quand même, on voit bien qu'il faut prendre toujours un peu de hauteur malgré tout, et que la trêve olympique, s'imprimer un peu de l'esprit olympique, de l'esprit sportif, de l'esprit du respect, de l'esprit des règles, c'est pas mal.
Vous en avez eu assez à un moment en entendant on sera pas prêt, les travaux ne seront pas terminés, ça va faire souffrir des commerçants, il va falloir badger. Etc. Ça vous a fatigué ou pas?
Non, moi ça ne me fatigue jamais.
Marseille, il n'y a pas eu ça. Ce problème-là.
C'est-à-dire, c'est typiquement français. C'est-à-dire que j'ai gagné les Jeux Olympiques, je suis fier, je suis heureux. Puis après, bon, ça va sortir un peu de mon habitude ou de mes habitudes. Et puis après, il y a toujours des ronchons. Voilà, des ronchons.
Mais quand on voit les sondages, il y a à peine plus de 50% des Français qui sont emballés par les JO pour l'instant.
Oui, à peine 50%, mais vous allez voir comment ça va s'emballer ce soir. Ce matin, j'étais sur le vieux port là, dès 6h30 pour me promener. Il y a du monde, les policiers. Ici, ils sont contents, ils sont là nombreux, l'ambiance est géniale. Il y a juste ce petit courant d'air qui fait en sorte que vous êtes sur le plateau depuis ce matin 10h, votre coup de soleil, vous allez le prendre en plein fer dans la tête.
Oui, ça c'est
mais
sûr.
Pour autant,
ce soir, vous
serez de bonne humeur, tout le monde est de bonne humeur, et on est heureux d'accueillir le monde ici à Marseille, pour la France, pour les Jeux Olympiques, avec tout ce que ça représente.
Je trouve que ça représente aussi un beau symbole historique, parce que la flamme qui vient de Grèce, c'est l'histoire de cette ville, c'est l'histoire de la colonisation méditerranéenne des Athéniens. Quoi. Oui. Je trouve que finalement, Marseille, c'était le bon endroit.
Le lien entre Athènes et Marseille. Parce qu'on dit que c'est les Grecs qui ont créé Marseille.
Comme quoi, finalement,
si on dit la cité phocéenne, ça veut dire.
Voilà. Comme quoi, finalement, quand on a fait cette candidature en 2014, en proposant tout
ça, ça avait un sens.
Mais très honnêtement, qui pensait que ça avait un sens quand on a battu La Rochelle en expliquant qu'on était plus fort à le terrain de jeu que La Rochelle? Bruxelles où soi-disant ils sont meilleurs marins que nous.
Voilà. Après, vous avez quand même l'un des supporters les plus fervents de Marseille, c'est le président de la République, Emmanuel Macron. Il ne cache pas son amour pour Marseille. Il sera là tout à l'heure d'ailleurs pour
participer
à la fête.
Oui, mais
non, mais ça aide.
Tant mieux.
Non, mais ça aide.
En 2014, c'est pas lui qui nous a fait avoir les Jeux.
Non, c'est pas lui. C'est pas lui.
C'est pas lui.
C'est pas lui.
Emmanuel Macron.
Ce n'est pas lui.
Il n'était pas là.
Non, c'était son prédécesseur. C'est pas lui qui nous a fait avoir les Jeux. Donc
d'accord, mais aujourd'hui.
Donc aujourd'hui, bon ben.
Aujourd'hui,
supporter de l'équipe qui gagne, c'est facile.
On a l'impression. Que c'est le meilleur porte-parole de Marseille aujourd'hui.
Ou je suis pas sûr, mais en tout cas, c'est le président de la République. Et donc, si le président de la République il aime Marseille, tant mieux. Nous, on a besoin d'être aimés. Donc, et dans l'amour qu'on nous porte, d'où qu'on vienne.
Vous êtes souvent détesté.
Ouais, ben on nous prend souvent.
Décrié.
Ouais, parce que soi-disant, on a le sourire tout le temps, on a une bonne humeur, un accent, etc. Donc, on est du Sud. Ouais, ben on assume d'être du Sud, nous. On est du Sud, on a l'accent, mais ça, c'est le Sud. Il y a la puissance de feu et d'action dans le Sud, et on va le montrer encore aujourd'hui.
Joël de Gosserie.
Ah, sur l'aspect sécuritaire, on a vu que c'était bien sécurisé et bien cadenassé. Et moi, je me pose la question sur justement cette trêve. Est-ce que vous avez organisé une trêve un peu des dealers, entre guillemets, puisqu'il ne faudrait pas que ça vienne gâcher la fête, qu'il y ait une tuerie et que Marseille revienne à l'actualité vous avez organisé le côté sécuritaire de ce côté-là?
Oui, ben moi, je suis un républicain. Moi, je suis du côté de l'ordre, de la loi, de la République, du respect des règles. Je peux difficilement organiser la trêve du shit ou du trafic de drogue. Eux, ils sont hors la loi, quand même, dans leur globalité. Bon, ce sont des assassins, ce sont des trafiquants, ils font du mal au pays, ils font du mal à notre économie, ils font du mal à notre santé, c'est un autre match. Aujourd'hui, moi je ne suis pas là pour parler de ça, j'ai Marseille, là, c'est travers, vous l'avez souligné.
Mais la région que vous présidez ici, là, alors je sais que vous n'aimez pas la région PACA, on dit la région Sud, c'est ça?
Bah, on n'est pas les Pacaïens, nous. Hein, on est des Provençaux, des Alpins, des Azuréens. Donc nous, on est des Sudistes, on n'est pas les Pacaïens.
En quoi la région
d'accord avec vous. On n'est pas IDF pour Île-de-France, on n'est pas HDF pour Île-de-France.
Ouais, mais du coup, les gens de Digne et de Gap, alors on
est. C'est des Provençaux ou des Alpins. Ah,
c'est
des Alpins, c'est des Azuréens. Et quand on fait la candidature pour les Jeux Olympiques d'hiver des Jeux de 2030, on est les Alpes du Sud.
Alors justement, parce que vous, la région, vous êtes impliqué dans ces Jeux-là.
Oui.
Mais il y a des Jeux qui s'organise, c'est ce 2030.
Oui.
Qu'est-ce qui va se passer en 2030?
Ben 2030, normalement, on a gagné. Donc, c'est-à-dire qu'on a éliminé, on a repoussé les Américains sur 2034. On a battu avec grand respect nos amis suisses et suédois et on est pour les Jeux olympiques et paralympiques d'hiver de 2030. Et on va se les partager entre les Alpes du Nord et les Alpes du Sud, côté Auvergne-Rhône-Alpes, avec un certain nombre de territoires, Courchevel, Méribel, La Plagne, où ils ont déjà des terres de jeux importantes. Mais nous, on a des grands champions et l'objectif de ces Jeux, c'est neige et chalet. Un peu comme l'île Hammer en 92. C'est-à-dire, on a la neige, on a les chalets et on a les skieurs. Et ben, on va organiser ça.
Et on a la mer.
Eh ben, on a aussi la mer. Ouais,
pour le ski, c'est.
S'il y a plus de neige, on va faire du ski nautique. Ouais, c'est ça que veut dire là. Renaud Muselier, il parle des Azuréens. N'oubliez pas qu'on dit les Alpes maritimes aussi, parce que ça, c'est mon département. Et donc, quand on est effectivement au bord de la mer, on a la chance de pouvoir se tourner, de voir la neige sur les montagnes, juste à une heure de voiture.
Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle, cher ami, il y aura sur les quatre pôles, deux dans le nord, deux dans le sud, un à Briançon sur Saint-Chevalier-Mont-Genève, sur tous les sports de glisse jeunes, là, halfpipe, snowboard, etc. Saut de bosse et l'autre pôle à Nice où il y aura toute la glace et donc de la glace on verra.
Bah ça, la glace, la Marshall, il connaît.
Ouais. Sorbet citron surtout. Ouais. Mais est-ce que Marseille va gagner de l'argent?
C'est sûr que pour le patinage artistique, il va gagner.
Il faut qu'il commence à s'y mettre.
Est-ce que Marseille va gagner de l'argent avec les JO là, la ville?
Je pense qu'on a toujours gagné de l'argent dans ces grosses manifestations. On a déjà organisé les championnats du monde de rugby à l'époque, la Coupe du monde de rugby à l'époque, la Coupe du monde de rugby cette année. Alors, sans remonter au calendrier grec, mais juste cette année pour la Coupe du monde de rugby, c'est 600 millions d'euros sur la région de retour. Hein. 600 millions d'euros, c'est sans investissement globalement, si ce n'est un lobbying très important pour avoir les Sud-Africains à Toulon, pour avoir de très belles équipes, un gros lobbying pour avoir de beaux matchs. Mais c'est 600 millions de retombées direct, hein. Donc sans compter les images, etc. Donc c'est quand même très positif. Donc là, pour les Jeux Olympiques, on fait un calcul. Dans la distance, je fais nous, la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, on est la première destination touristique en France après Paris. Donc on a un territoire de jeu qui est très très important pour l'accueil. On va se servir des images que vous voyez là, qui sont quand même absolument exceptionnelles et fantastiques, pour vendre la région dans le temps. Donc vous avez un héritage qui va se faire avec la marina. On a refait avec la région la totalité des crêpes, des ureps, des bases navales, enfin des bases nautiques, etc. Et puis, l'enjeu, c'est de faire entre 500 et 800 millions d'euros de retombées directes.
Ah oui, c'est pas mal. Mais donc, il y a la trêve politique pendant les JO ici en Provence-Alpes-Côte d'Azur ou pas?
Allô, allô.
Entre le maire, non, mais, le président de la région, la présidente du département.
Allô, le monsieur te demande, allô.
La région Provence-Alpes-Côte d'Azur, mais tout le monde a vogué dans le même sens?
Ah ouais, c'est-à-dire que c'est comme les régates, ça. Hein,
ça tire des bords.
Ça tire des bords. Il y a vent arrière, tout le monde va dans le même sens. Quand on remonte au pré, on tire les meilleurs bords. En tout cas, on s'impose une tenue correcte. C'est donc comme ça au moins.
Bah, c'est les intérêts communs, de toute façon, que ça
soit. Oui, mais le reste de l'année aussi, on a des intérêts communs, mais on a des objectifs, des façons de faire très différentes. Voilà. Donc bon, de toute façon, ce qui est important, c'est de montrer qu'on est unis, qu'on fait du bateau, qu'on a un territoire absolument exceptionnel, et que dans ce territoire exceptionnel, il n'y a pas que des horreurs, oui, du style la drogue, les assassinats, qui souvent...
Ou la grève des poubelles.
Elle
est terminée.
Oui, mais c'est terminé. Vous l'avez échappé belle quand même, là.
Oui, mais enfin, c'est des grèves d'opportunité, quoi. Il n'y a pas de grève il y a 3 semaines, 1 mois ou 3 mois. C'est la veille ou l'avant-veille. Donc, c'est des grèves d'opportunité, quelque part, de maître chanteur. Voilà.
Ah ouais, carrément. C'est du chantage.
T'appelles ça comment?
Pour certains, ça s'appelle, ceux qui font grève, c'est une lutte sociale.
Ah, lutte sociale, 48 heures avant rendez-vous de l'année, c'est des maîtres chanteurs. Mais, ils le font en leur âme conscience. Hein. Ils pensent.
C'est un moyen de pression.
C'est l'opportunisme
Hier, on les avait en ligne, Renaud Muselier, on les avait en ligne, justement, les éboueurs marseillais, qui disaient on a eu des promesses, elles n'ont pas été tenues.
Comme par hasard.
Sur le taux de pénibilité, etc.
Il y a un an, il y a une trêve olympique.
Ils ont été réquisitionnés. C'était pas le syndicat majoritaire. Non. C'est arrivé 48 heures avant. Bon, mais voilà, c'est très important, très secondaire.
Mais qu'est-ce qu'on dit aux Français ?
Est propre, la ville est propre. Aujourd'hui, tout est prêt, et on est heureux. Au-delà de cet incident, au-delà des problèmes que nous avons aussi ici dans cette cité, de montrer que on a un territoire absolument exceptionnel. Et que cette deuxième ville de France mérite d'attention. Donc merci au président de la République d'ailleurs de nous porter aide, assistance et bienveillance. Après, pour le combat politique et nos différences, trêve olympique.
Ouais. Mais dans un sondage publié hier par BFM TV, sondage Elab, on voit quand même qu'une majorité des Français restent assez, pour l'instant, indifférents à ce qui se passe. Est-ce que c'est normal? Parce qu'on est encore loin. Ça va démarrer vraiment à partir d'aujourd'hui. Oui, et que petit à petit, la ferveur va monter. Et que plus on va avancer vers les Jeux, plus les Français vont se
mobiliser. Je pense que c'est assez normal. Si je regarde sur la région, les retombées, en quelque sorte, on a mobilisé les différents départements pour que ce soit terre de jeu et donc que la flamme olympique passe dans les différents villages. Ouais. Ah, mais il faut voir l'attente dans les villages. Hein.
Ouais.
C'est-à-dire le maire qui organise ça dans son village.
À chaque fois, ça va être la fête.
C'est colossal, en fait. Donc, c'est immensément populaire. Ouais. Alors, petit à petit, je pense que ce Tour de France, qui est une très bonne idée de terre de jeu, va faire en sorte que petit à petit, mais c'est sympa ce truc. C'est génial. Pourquoi je ne l'ai pas porté, moi, à la flamme? J'y suis allé, je l'ai vu.
Et on va peut-être même s'en rendre compte plus facilement dans un petit village, une petite ville, que dans les grosses métropoles.
Celui qui arrive ici, vous avez 150 personnes sur le port, excusez-moi du peu. On n'est pas chez les enfants de cœur, là. Il y a 150 000 personnes sur le port. Mais on l'a déjà fait. La région Provence-Alpes-Côte d'Azur est une terre de jeu. On a organisé des compétitions internationales. À Nice, on va recevoir le Tour de France. On a fait la Coupe du Monde de rugby. Les Jeux Olympiques. Ici, on a fait la Marseillaise, C'est 100 000 personnes sur le port, sans un coup de couteau, sans une bagarre, avec la fête. Hier soir, il y avait combien de personnes? Je ne sais pas, 50 000 personnes. Exceptionnel.
Ouais. Et vous avez gagné la Ligue des Champions en 93 aussi.
Et on a gagné la Ligue des Champions.
Et peut-être vous irez encore en finale.
Et Paris est vachement sympa, parce qu'hier soir, ils n'ont pas gagné. Ça va pour nous.
Je sais, vous étiez pour l'Allemagne, comme d'habitude, les Marseillais.
Non, pas du tout. Je suis pour la France, moi, mais je suis malheureux qu'ils aient perdu.
On vous a vu applaudir les buts de Dortmund. Renaud, justement, un pronostic pour demain, parce qu'il y a Atalanta Bergame Marseille.
Je suis malheureux d'abord parce que je comptais y aller, mais comme il y a la flamme toute la journée ici, que j'ai des manifestations, qu'on va à la Cité internationale Jacques Chirac, on fait beaucoup de choses dans la région et je fais le tour de la région aussi, donc je peux pas y aller. Donc ça me peine. Parallèlement à ça, quand même, c'est jouable, c'est vraiment jouable.
Ouais.
C'est à portée de main.
Il y a un coup à jouer.
Vraiment, ouais.
Merci.
C'est à portée de main. Et puis très honnêtement, si cette semaine,
Zizou, alors,
ça serait bien.
Et Zizou,
ça,
vous êtes président.
Il est content.
Cette année, regardez aujourd'hui, tout le monde se régale, voir le bateau. C'est c'est
la bonne semaine Bélème pour Marseille.
Et tout, etc. 150 000 personnes, êtes... tout va bien. En plus, de demain, poum, on bat les... Et au revoir.
Ouais, les Italiens. Ciao, ciao, vive.
Allez, en voiture, Simon.
Merci, monsieur Mugelier.
Oui, pardon.
Et Zizou, alors. C'est lui le dernier qui la porte?
Je sais pas, moi.
Ouais, mais c'est le président de la région. C'est. Non, président de la région, vous savez pas.
Moi, je sais ce que bien je voulais savoir.
Merci Renaud Muselier.
Merci à vous.
Président de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, merci d'être passé par le plateau des GG, le plateau des Grandes Gueules. On se quitte avec une magnifique image du Bélem. Il est à quelques encablures, justement.
Il est loin, là, mais on le voit, on l'aperçoit.
Des côtes marseillaises, il est à 4-5 000 au large. Ouais. Il rentrera ce soir dans le port avec la flamme et puis la vasque va s'allumer. 150 000 personnes sont attendues. On va continuer d'en discuter, d'en parler ici sur RMC, la radio officielle des Jeux Olympiques Paris 2024 sur RMC Story. On est à la radio, on est à la télé. Dans un instant, allez, une discussion à la mode grande gueule. On va évoquer ce que dit le président de la République. Le devoir de visite pour les parents absents. Il parle beaucoup des divorcés, de la famille. Le chef de l'État, dans une interview au magazine Elle, est-ce qu'il faut instaurer un devoir de visite pour les pères, pour les papas après le divorce, pour ceux qui ne sont pas les plus assidus auprès de ce qui était leur foyer. 32-16 pour venir en parler avec les GG.
RMC.
9h midi.
Les Grandes Gueules en direct de Marseille.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les GG, les Grandes Gueules en direct sur RMC. RMC Story, les GG avec vous de 9h à midi sur il faut reconnaître, une terrasse exceptionnelle. C'est la terrasse du Mucem. Nous sommes face à la mer avant l'arrivée de la flamme olympique ce soir. À bord du Bélem, ce magnifique voilier. On est face à la Méditerranée d'un côté, avec le port de Marseille dans notre dos, avec Didier Giraud, l'agriculteur, qui voit la mer pour la deuxième fois dans sa vie. Joël Dagosséry, qui nous accompagne à côté de lui. Et Mehdi Guézard, le patron de PME, qui est avec nous.
Le panorama est exceptionnel, parce qu'en plus, on voit tous ces bateaux qui sortent du port de Marseille pour aller accueillir le Bélem. Le Bélem, il est au large. Hein. Il va se balader d'ailleurs du côté de la rade nord et ensuite la rade sud avant d'entrer dans le port. Et les bateaux, il y a plus d'un millier de bateaux prévus. Ces bateaux vont accompagner l'arrivée du 3 mâts qui, rappelons-le, est parti fin avril du Pirée, le grand port grec, pour rejoindre la cité phocéenne. Voilà.
Avec un énorme porte-conteneur à l'entrée de Marseille, il y a écrit Paris 2024. Ça, c'est kiffant.
Oui, alors c'est ça qui est marrant.
Ça, c'est kiffant.
On est à Marseille, mais Paris 2024 est partout.
Hier, il y avait même dans le ciel, il y avait écrit Paris 2024, un soir de défaite de Ligue des Champions. Je peux te dire que ça m'a mis...
C'est ça la trêve olympique. Oui, c'est Paris et Marseille.
C'est ça qu'on appelle la trêve, Mehdi, tu vois.
Ouais, ouais.
Alors, tout à l'heure, on en parlera à 11h-20 avec Redouane Bougueraba. Redouane Bougueraba, c'est l'un des humoristes les plus populaires du moment.
Il remplit le vélodrome.
Oui, il remplit le vélodrome. Il va être porteur de flamme. Vous l'avez vu, vous n'avez pas pu le rater à la télévision. Il sera avec nous tout à l'heure à 11h-20. En attendant, on va faire une petite trêve, là, puisqu'on parle beaucoup des JO. C'est normal. En plus, je vous dis, RMC, la radio officielle des Jeux Olympiques. Mais on va s'intéresser à un sujet de société qu'a évoqué le président de la République dans le magazine Elle.
RMC, les Grandes Gueules.
Oui, le chef de l'État, dans cet entretien, estime que les deux parents doivent exercer leur responsabilité à l'égard de leurs enfants, c'est-à-dire lorsqu'ils ont divorcé. Et il veut instaurer, le chef de l'État, un devoir de visite pour les pères absents.
Oui, parce qu'on sait qu'en France, il y a de nombreuses familles monoparentales et 85% de ces familles monoparentales, donc avec un seul parent, c'est 1,7 million de Français, sont élevés par des femmes. Les enfants sont élevés par des femmes. Le père ne vient pas, ne paye pas souvent la pension alimentaire, ne rend pas visite à son gamin ou à ses gamins. Et donc Emmanuel Macron veut insister sur les droits, mais aussi les devoirs. C'est un devoir d'être parent et d'assumer sa progéniture. Et donc il voudrait, alors on ne sait pas vraiment dans quel cadre encore, ça reste un peu flou, mais dans cet entretien accordé au magazine Elle, il estime qu'il faudrait mettre en place un devoir de visite pour les pères absents. Est-ce que c'est faisable, souhaitable, imaginable?
Joël Dagosséry.
Non, c'est un sujet qui m'intéresse. Déjà, je suis enfant de parents divorcés, je suis séparée du père de ma fille, donc c'est des sujets qui m'intéressent fortement. Je suis contente que le président de la République s'intéresse à ça, à l'absence du père. Je veux dire, il a rien inventé. Normalement, dans le droit, le père, la mère, on a une obligation.
C'est déjà prévu.
Voilà. Donc il n'y a pas. Enfin, je veux dire, là, il invente pas le fil à couper le beurre.
Mais est-ce qu'on peut imposer à un père d'aller voir son gamin, d'aller le voir, de s'en occuper?
Bah, Normalement, en tant que maire, si le père n'exerce pas ses responsabilités, tu peux aller devant la justice et demander à ce qu'il exerce ses responsabilités. Moi, j'aimerais plutôt qu'on porte l'attention sur autre chose, parce que dans ces familles monoparentales, il y a aussi un nombre de mamans qui empêchent le père de voir ses enfants comme il le souhaite, qui bloque l'accès au père. Alors, pour diverses raisons, il y a des raisons qui sont de violence, c'est-à-dire que le père a été violent, et on sait qu'en France, souvent, on accorde un droit de visite à un mari qui a été violent, parce qu'on peut quand même se poser des questions sur sa capacité de père, mais il n'y a pas que ça, il y a aussi, des fois, juste une mésentente, et l'enfant peut être au centre du jeu. Moi, je sais, parce que mes parents se sont fait la guerre pendant très longtemps, pour la garde. Mon père était très actif, et il était de ses pères qui estimaient qu'il devait avoir la garde de ses enfants. Et donc, quand t'es enfant, tu te retrouves un peu au centre du jeu de parents qui... Exactement. Donc ça, c'est à la justice de déterminer ce qui se joue, mais aussi de faire jouer...
Parfois, quand les pères sont absents, c'est ça parfois peut être, contre leur gré.
Je sais que beaucoup de femmes ne vont pas être d'accord avec moi, mais je le dis et je le maintiens, que beaucoup de femmes compliquent l'accès à l'enfant au père. Et les pères sont peut-être un peu moins vindicatifs, ou etc. Et donc, ils peuvent un peu laisser tomber. Voilà, il y a aussi cet aspect des choses.
Didier, tu l'as dit.
Toi aussi, tu as divorcé.
Oui, mais ça s'est toujours plutôt bien passé. Tu dis, je suis content qu'Emmanuel Macron s'intéresse à ces sujets, mais c'est bien de s'y intéresser, mais concrètement, qu'est-ce que tu peux ? Parce qu'on en fait souvent le constat, une partie des problèmes qu'on a dans la société française et par rapport à la jeunesse, c'est les problèmes d'éducation. Ouais. Que ces problèmes d'éducation sont souvent liés au rapport à l'autorité et que dans les familles, c'est parfois le père qui incarne le plus l'autorité. Ouais. Mais quand le père, il a choisi d'être absent, en dehors des cas que tu dis où la mère fait obstruction... Quand le père, il a choisi d'être absent, moi, je suis d'accord que Macron, il s'intéresse au sujet. Mais qu'est-ce qu'il a comme moyen pour rendre le père présent quand il est absent?
Aucun.
Moi, je crois que c'est du blabla, une fois de plus.
Ah non,
et que tu n'as aucun moyen de contraindre le père à assumer sa part d'éducation de ses enfants quand il a choisi d'être absent, quoi.
Bah, si, je suis pas d'accord.
Annonce sans lendemain.
Alors, Mehdi.
Annonce sans lendemain, comme d'habitude. La politique politicienne à deux balles qui ne sert strictement à rien pour faire un article dans Elle, magazine. Tout simplement.
Pourquoi ?
Pour plaire aux
Et pourquoi tu dis que c'est une annonce bidon ?
Parce que tu ne peux pas imposer par la loi. Tu ne peux pas imposer par la loi avec la contrainte de corps pour qu'un père qui n'a aucune responsabilité morale, qui est un débile fini, qui abandonne ses enfants, de venir voir ses gosses, tout simplement. Ouais, mais arrêtez de croire que vous êtes au pays d'Alice, Alice au pays des merveilles. Oui. Tu vas pas dire à un mec qui n'a pas de cœur, qui ne s'occupe pas de ses gamins, je vais te ramener un flic pour t'emmener voir tes gamins.
C'est pas seulement.
Mais arrêtez, c'est pas seulement
des pères qui n'en ont rien à faire de leurs gamins.
Mais c'est aussi
des pères qui sont un peu légers, qui disent ce week-end, je le prends pas. Et t'as la mère qui dit bon, d'accord, etc. Donc il y a des pères qui sont complètement absents, mais il y a des pères aussi qui sont un peu légers et qui pensent qu'ils peuvent s'arranger avec le droit de visite et dire à la mère bah, ce week-end je peux pas. Joël. Écoute, on s'arrange. Moi, je pense qu'une contrainte financière, qu'est-ce que tu veux faire? Tu vas pas le menoter.
Comment ça, la contrainte financière?
Désolé, il y a plein de choses pour lesquelles on te saisit, on te fait des saisies sur le compte ou sur les salaires. Bah, je suis désolé, t'assumes pas ton rôle de père. T'es condamné par la justice, t'es saisi sur ton salaire et ça va te faire très mal et tu vas te mettre à réfléchir à deux fois avant de sauter ton... c'est pas la pension alimentaire.
Ça s'appelle la pension alimentaire.
Joël, quand tu regardes le taux de paiement des pensions alimentaires derrière un jugement qui est à peu près nul, qui est dans des proportions en dessous de 50%, rajouter une contrainte supplémentaire...
Où il y a un fonds qui a été créé par la CAF avec une garantie de l'État. Excusez-moi, moi je vais vous le dire.
Le droit de visite et la pension alimentaire,
Emmanuel Macron, en tant que président de la République, ne peut pas s'occuper de tout et de toutes les problématiques. Il y a assez de problèmes dans la vie pour rajouter des problèmes comme cela. Moi, je vais vous donner mon avis, et c'est un avis tout à fait personnel. Il y a énormément de pères, d'accord, parce qu'on les oublie très souvent, parce que 80% à 85% des droits de garde sont donnés toujours à la maman, d'accord. Mais il y a énormément de pères qui sont toujours empêchés par leur mère de voir leurs enfants. d'accord ? Pour diverses raisons. Ouais. Par jalousie, parce que le père, il a quitté la mère, parce qu'ils ne se sont pas entendus, parce que si, parce que ça. D'accord ? Donc maintenant, on veut toujours culpabiliser le papa. On veut toujours le faire passer pour le salaud. On veut toujours le faire passer pour le méchant.
Ça peut arriver aussi.
D'accord ? Ça peut arriver.
Les pères
ça, arrive. C'est vrai régulièrement, mais ce n'est pas une généralité. Donc de criminaliser en quelque sorte comme ça le père, d'accord ? Il faut savoir, il faut avoir des tenants et des aboutissants de tous les cas différents.
Mehdi,
chaque cas
j'ai compris.
Est bien différent.
Mais Mehdi, moi ce qui m'avait frappé, c'est que dans les derniers faits divers impliquant des mineurs, et parfois des faits divers tragiques, parce que ça se termine par la mort d'un autre mineur, eh bien on s'aperçoit qu'à chaque fois, il n'y a pas de père. Le père a disparu.
Alors, le père est absent. Il y a plusieurs raisons.
Pourquoi le père n'est pas là ?
Le père est absent parce que c'est un idiot et qu'il n'a aucun sens de la responsabilité. Et ça arrive, et je le dis et je le redis sur ce plateau, mais des fois, ce n'est pas que de son fait.
Alors, on va en parler.
Ouais. Non, il faut aussi savoir.
Ouais, mais du coup, c'est un point commun.
Loi, non, attendez, voilà,
on va passer par le 32-16.
Tu mets une loi pour criminaliser la chose. On va te dire encore, comme d'habitude.
C'est pas criminaliser, amende, c'est responsabiliser.
Amende,
non, mais
pénale,
la responsabilité,
tribunal,
c'est pas criminel. Hein.
Dit,
il faut responsabiliser,
il
faut pas criminaliser.
Après la mort d'un père,
flûte. Pour moi, c'est de la flûte du président sur Elle Magazine. C'est de la flûte. Ça ne va aboutir.
D'accord. Alors, attends, justement. On va en parler avec Sophie, qui est avec nous au 32-16. Bonjour Sophie.
Bonjour Edouard.
Bienvenue Sophie.
Bonjour Sophie.
Bonjour.
Séparée, Sophie.
Oui.
Est-ce que vous pensez qu'il faut instaurer un devoir pour le père, alors ?
Non, pas du tout, parce que je pense qu'on ne peut pas obliger un parent à aimer ou s'occuper de son fils. Moi, j'ai mon ex-conjoint, il ne s'est jamais intéressé à notre fils. Depuis sa naissance, malheureusement, il ne s'est pas investi. Et ça fait 7 ans qu'on n'a aucune nouvelle.
Voilà.
Ah, carrément.
Ah ben voilà.
Oui.
Avec ce mec-là,
quel moyen
il y a. Avec ce mec-là, tu veux dire quoi ?
Oui, mais...
Le mec, il n'a pas de fibre paternelle.
Oui, ça, c'est un.
Il est complètement à côté de la plaque. Tu vas lui dire quoi ? Tu vas lui envoyer un huissier de justice ? Tu vas lui envoyer une convocation de justice ?
Attendez. Sophie,
je ne veux pas l'obliger à aimer son fils. Ouais.
Sophie.
Son sang, son ADN, il l'a perdu.
Donc ça veut dire. D'accord, mais est-ce que ça manque au fils ?
Et bien sûr que ça manque.
Attendez.
Non, alors nous on a vécu des choses compliquées avec mon ex-conjoint. Quand je l'ai quitté, mon fils avait 1 an et demi. J'ai toujours fait en sorte que il reste en contact avec son père. Mais à un moment, comme je vous dis, voilà, on peut pas obliger le parent à s'occuper de son enfant.
Au moment de la séparation, qu'est-ce qui avait été décidé ?
Alors j'ai la garde exclusive.
D'accord. Il n'y a pas un droit de visite ou il n'y avait pas des visites prévues un week-end sur deux
non.
Ou...
Non, pas du tout.
Pourquoi ?
Parce que j'ai eu de la violence psychologique quand j'étais avec lui. Il m'a menacé d'un couteau. Lorsqu'il a pris notre fils, il a dû le prendre trois week-ends. Ça s'est très mal passé. Il lui a donné une forte fessée. Mon fils est rentré à la maison. Il a fait une crise d'hystérie. Il s'est fait pipi dessus. Et il m'a dit, maman, je veux plus aller voir papa.
Oui, d'accord. Donc, en fait, c'est plutôt un père nocif.
Voilà. Et ce mec-là, tu vas l'obliger à aller voir son gosse.
Mais arrête, Mehdi. La justice, elle sait très bien faire la différence. Puisque là, pour Sophie, la justice a dit, droit garde exclusive pour la maman. Donc, dans ces cas-là, le juge a fait son boulot. On ne parle pas de ce
cas. Mais Joël, il y a le cas de ce père toxique. On est d'accord. Finalement, c'est une bonne chose que le fils ne le voit pas. Mais ensuite, il y a le cas, toi tu dis, des mères qui font tout pour que le père n'ait pas de contact. D'accord, ça on peut le régler.
Ah oui.
Mais après, il y a des pères qui finalement ne sont pas toxiques, mais ils se désintéressent peu à peu de leur enfant. Qu'est-ce que tu peux faire pour eux ?
Ce type de papa doit être condamné par la justice. Et je te dis qu'au-delà de la pension alimentaire qu'il verse, s'il la verse, on doit lui imposer une contrainte financière en plus. Pourquoi je dis
donc
ça ?
Donc du pognon.
Non, pourquoi je te dis ça ? Parce que le problème de la mère seule, il n'est pas simplement que le papa papa n'est pas là. Il est aussi sur ses revenus. Elle se lève à 6h du matin, oui, elle va faire du ménage de nuit, etc. Elle s'occupe quand de ses enfants quand elle doit faire enchaîner 3-4 missions dans la journée. Donc, excuse-moi, les enfants que tu vois qui sont dans les rues, c'est aussi parce que le père est absent, mais aussi la mère est absente. Joël. Et elle est absente pourquoi ? Parce qu'elle n'a pas assez de revenus. Elle doit se taper deux boulots. Donc, excuse-moi, un père, on ne peut pas le contraindre en lui mettant les menottes pour qu'il vienne récupérer son fils ou sa fille. D'accord. Mais par contre, on peut lui prendre de la thune pour que cette maman-là, elle ait à faire moins de boulot et qu'elle ait du temps pour rester à la maison. Donc, oui, c'est un enjeu de s'occuper de ce genre de papa.
Je te le dis à toi personnellement, parce que tu sais très bien tout le respect et l'attention que j'ai pour toi. Tu es une amie dans la vie, d'accord, Joël ? Et je te le dis, et tu sais très bien que ce que je vais te dire, c'est exactement ce qui va se passer. Ce projet de Emmanuel Macron ne va jamais exister. Tu le sais que c'est une annonce.
Ça c'est.
Excuse-moi, Joël. Tu sais que c'est une annonce sans lendemain. Bon. Tu le sais qu'il a fait ça pour son interview, pour lancer des projets qui n'aboutiront.
Laissez-moi, s'il vous plaît.
Laissez-moi juste finir. Qui n'aboutiront jamais. Toi, Joël, dans ton idée, tu veux rajouter du pognon à du pognon, des amendes à des amendes, des restrictions financières à des. Je te le dis, un homme qui n'a pas la fibre paternelle. Ouais, d'accord.
Oui, mais tu peux pas importe.
Alors, attends, Mehdi,
s'il travaille, Mehdi,
Joël,
il a de l'argent,
Mehdi, Joël, donc... Mehdi, Joël et Didier, pardon. C'est un sujet sensible qui concerne des millions de gens.
Il y a beaucoup d'appels au
3. Voilà, on va prendre le temps d'écouter encore Océane dans un instant, en direct sur RMC, avec ce que dit le président de la République. Faut-il instaurer un devoir de visite pour les pères absents en cas de séparation dans le couple, peut-être dans l'intérêt des enfants, hein, tout de suite avec les GG en direct de Marseille, sur la terrasse du Mucem, en direct sur RMC, surtout RMC Story.
RMC, 9h midi, les grandes gueules en direct de Marseille.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les GG, les grandes gueules en direct sur RMC et RMC Story, les grandes gueules toujours en direct de la terrasse du Mucem ici à Marseille. Qu'est-ce que vous voulez ? On a la terrasse face à la mer avec les centaines de bateaux qui sont en train de sortir pour accueillir le Belém. Donc le spectacle, c'est vrai qu'il est, il est sous nos yeux. Donc là, les GG sont là, regardez, effectivement.
On a surtout des auditeurs des GG qui viennent nous voir, qui sont en bas. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, c'était pas ouvert au public pour des raisons de sécurité, et puis ça s'y prête pas, cette terrasse du Mucem. Donc on va les saluer quand même, et ils sont sympas parce qu'ils sont venus nous voir, ils sont venus voir les grandes gueules.
On va continuer avant d'accueillir Redouane Bougueraba, l'humoriste qui portera la flamme demain. On va continuer notre discussion, parce que c'est vrai que ça appelle beaucoup au 32-16 sur ce que dit le président de la République à propos de l'instauration d'un devoir de visite pour les pères absents en cas de séparation du couple, de divorce. C'est Océane qui va en parler avec nous. Bonjour Océane.
Bonjour.
Bienvenue. Vous approuvez l'idée du président de la République ou pas ?
Alors, sur le principe, oui, mais en fait, c'est un gros problème de sémantique qui me dérange. Moi, je suis belle-maman. La faire un peu courte, j'ai rencontré mon mari, sa fille avait 1 an et demi, ils étaient séparés. On s'est battus pour avoir une garde alternée. Et je dis « on » parce que c'est vraiment un parcours du combattant pour le couple. On s'est battus pour avoir une garde alternée. On a déménagé au gré des déménagements de la maman. On s'est adapté, on a toujours eu un domicile hyper accueillant avec une chambre pour cet enfant. Enfin, vraiment tout, on a suivi vraiment l'évolution de cet enfant. On a eu nos propres enfants. Et puis au gré des volontés des juges qui disent que ben en fait l'enfant doit rester chez la maman, que la maman ça reste la maman, que les frères et sœurs chez la maman sont des frères et sœurs, les frères et sœurs chez le papa sont des demi-frères et sœurs parce qu'il n'y a pas le lien de la maman. Donc ça, c'est vraiment des juges qui mettent ça en avant. Donc déjà, à partir de ce moment-là, on voit bien quand même qu'il y a une vraie négation du papa qui, lui, veut s'investir et qui n'est pas, c'est ça, et qui n'est pas du tout considéré. On met en avant, oui, mais alors la maman, la pauvre, n'a pas de situation. Le papa a une situation très calée, très, bah, c'est pas grave, on va lui prendre une grande pension alimentaire. Voilà, on amène plein d'arguments. On va en justice, on fait appel, on paye les frais de justice de la maman puisque la pauvre n'a pas les moyens. Donc tout ça, ça dure. L'enfant aujourd'hui a 14 ans. Ça fait 3 ans que on ne la voit plus. Que la maman,
Refuse de vous la ramener.
C'est ça, puisqu'en fait, elle a récupéré la garde pleine au gré des déménagements, hein, parce que bon, il y a un moment, on peut plus suivre. Hein.
Mais elle a 14 ans, elle a 14 ans, ouais. Elle peut être quand même entendue par un juge, cette
Oui, sauf
cette
que le problème, c'est que ça fait 7 ou 8 ans que sa maman lui met lui bourre le crâne, en fait.
Ouais.
Donc, vous entendez le discours de la gamine aujourd'hui, elle a eu que le son de cloche de sa maman, elle est pas au courant de tout ce parcours du combattant,
donc,
on
en
demande
fait, ce que
des médiations.
Ouais. Ce que vous dites, Océane, c'est qu'on aura beau instaurer un
Mais
devoir
bien sûr.
Pour le père, ça ne résoudra en
non.
rien les problèmes qu'il y a entre un homme et voilà. une femme,
oui,
entre des parents
pardon.
Divorcés.
Oui, mais ce que j'entends dans le témoignage, c'est qu'on a quand même une magistrate ou un magistrat qui prend fait et cause pour la maman et qui n'entend pas
oui,
les
bien
demandes
sûr.
Du père.
Vous c'est-à-dire imaginez qu'à un moment
donné, il va falloir aussi que les juges...
C'est oui. ça, parce que la juge a quand même... Vous voyez, on avait une chambre, par exemple, pour l'enfant, c'est un cas un peu spécifique, mais chacun de nos enfants, on a trois enfants, chacun de nos enfants avait une chambre, et quand la juge, on lui dit, oui, mais elle dort avec ses deux frères et sœurs, elle n'a pas de chambre, la maman dort dans le salon, enfin, oui. je veux dire, il y a aussi une dynamique dans l'habitation et dans la vie familiale, où on est plus stable, la juge a quand même été capable de dire, oui, mais ça sociabilise les enfants. Donc, il y a un moment, vous pouvez tout faire...
On fait dire tout, mais je pense que le cas d'Océane, c'est aussi un cas. Alors, je ne sais pas s'il est particulier, s'il est minoritaire ou majoritaire, mais c'est un cas où le papa. Non, mais c'est un cas où le papa veut jouer son rôle
et
la maman qui l'en empêche.
Ouais, et je pense que le collège, par exemple, était même pas au courant qu'il y avait un papa.
Il s'adresse aussi au cas où les papas ne veulent pas jouer leur rôle, parce qu'il y en a aussi. Merci Océane, merci de ce témoignage.
Merci Océane.
Merci d'avoir été avec
bon
nous.
Bon courage à vous.
Ouais, et puis on verra ce qu'il advient de cette proposition d'instauration du devoir de visite pour les pères absents. C'est de la flûte d'Imédi Guézard à suivre dans les prochaines semaines et les prochains mois. Il vient d'arriver sur le plateau des GG.
C'est
Redouane Bougueraba qui est avec nous, l'humoriste qui va porter la flamme demain. Bonjour Redouane.
Bonjour.
Bienvenue.
Merci, bienvenue à vous. Je suis marseillais.
On est
à la maison.
On est chez vous.
Bienvenue chez moi.
On est fiers de porter la flamme.
Très très fiers.
Comment vous l'avez appris? Comment ça s'est fait?
Je l'ai appris. On m'a appelé, on m'a dit voilà, comme tu représentes Marseille, tu vas faire le stade Vélodrome. Tu es né juste derrière ici au palier. Ça serait bien. On essaie on veut une représentativité des talents marseillais. Ouais. Est-ce que ça te dirait de porter la flamme quelques centaines de mètres? J'ai écouté depuis tout petit, moi je suis prêt. Mon père me disait rapporte-moi la télécommande, rapporte-moi du pain. Du coup, j'ai toujours apporté des trucs pour mes parents. Je savais pas que ça allait me servir un jour dans ma vie.
Vous la rendez à qui la flamme
là? En fait, c'est un relais. Le but du jeu, c'est qu'elle arrive au stade Vélodrome et il y a des très bons rapporteurs de flamme.
Vous parcourez combien de mètres?
Moi, je peux faire toute la distance.
D'accord.
Je suis préparé physiquement.
Il y a l'entraînement.
17 000 km, vous pouvez les faire.
17 000 km, non, pas les 17 000, mais il y a une petite partie.
Il y a un entraînement sportif pour faire 500 mètres, quoi.
Ben, c'est quoi? Il faut se soulever de bras, mais...
C'est quoi? Alors, quel est le protocole, en fait? Parce que j'imagine qu'on a dû vous briefer, vous dire, voilà comment ça va se passer. Non? Ou pas,
y a non, c'est demain matin, il y a un protocole. Je sais qu'on a rendez-vous au Pharo et je sais que c'est une centaine ou 200 mètres à parcourir avec la flamme qu'on doit transmettre à un autre porteur de flamme. Donc, je sais qu'il y a, des Marseillais, des anciennes gloires du football marseillais. Il y a des très beaux noms. Il y a Tony Parker aussi. Il y a Colette. Il y a beaucoup de gens qui représentent la ville de Marseille et des artistes et des sportifs.
Eric.
Eric Dimeco, qu'on apprécie.
Le seul joueur marseillais qui en vaut la peine.
Non.
40
ans. Ça provoque.
Il y a Didier Deschamps, il y a Basile Boli, il y a Drogba, bien sûr. Jean-Pierre Papin.
Ah mais Eric Dimeco,
c'est Eric Dimeco, ben parce qu'il bosse avec toi et que t'as peur de lui, c'est tout. Les autres, tu les connais pas, mais quand tu vas les croiser, tu vas te faire les croiser.
Et peut-être Zizou, parce qu'il y a un invité mystère.
Est-ce que franchement, en tant que porteur de flamme et un peu dans la confidence, vous êtes au courant de l'invité mystère ou pas du tout?
Je suis pas au courant. Non mais vraiment, je suis pas au courant.
Il y a le nez qui pousse,
Non, je suis pas au courant parce que des fois ils annoncent des personnes après. Si la personne ne vient pas, il y a une déception. Donc, on préfère pas annoncer et qu'il y ait la surprise. Ouais. Après, franchement, je sais pas. Moi, je suis déjà ravi pour moi d'être là et je suis content. Regardez, il fait beau. Ça, c'est un plateau qu'on n'aurait pas pu faire à Paris.
Mm-hmm.
Parce qu'il fait moins 14, il neige.
Oui.
Et c'est ça. Et on est super bien.
Ouais.
On a des invités de marque, Aya Nakamura, José Bové. Moi,
je suis
Je sais pas.
Elle revient de New York pour le Met Gala.
Oh, oui,
elle
a... exactement. Oh, j'aime la couleur de cheveux.
Ben oui, c'est par rapport à la couleur de cheveux.
Je le savais parce que je vous suis sur
les réseaux sociaux.
Et je sais que quand on est en première ligne, ouais, on prend cher.
Moi, j'ai refusé d'aller.
C'est pour ça que je me suis dit, oh zut, là, on va être en première ligne.
Oui, parce que la particularité.
Pour mon anniversaire, on m'a offert des places au premier rang.
Mais pas de chevalier.
C'est deux copains à moi qui m'ont dit, viens, on y va. Hein. Je sais que t'es malade ou quoi. Je vais me faire insulter, j'en m'en dis.
C'est vrai que quand on vient vous voir.
Au premier rang, c'est
quand on vient vous voir, il faut mieux être pauvre, en fait. Il faut mieux être derrière.
Non,
si.
Les amis, il ne faut pas dire ça.
C'est
la blague. Il y en a pour tout le monde. Il y en a pour tout le monde. Et c'est toujours fait avec amour et bienveillance. Du coup.
Mais est-ce que c'est vraiment la fête partout dans Marseille pour l'arrivée de la flamme? Ou est-ce que c'est juste là, dans le périmètre, qui va vivre l'arrivée du
Non, c'est tout Marseille qui va faire la fête.
Vraiment?
C'est qu'il y a les supporters qui ont préparé des tifos. Animations.
Et les tifos.
Exactement. Il y a des tifos, il y a des animations. C'est toute la ville, c'est la fête. Ce sera un super concert avec plus de 150 000 personnes qui sont attendues. Du coup, ça va. Je pense que c'est très très bien ce qui se passe. C'est bien c'est un dynamisme de la ville.
On parle d'autre chose, c'est ça. Enfin, on parle un peu de manière positive.
On parle de la ville des défaites de l'OM.
Exactement. Non, on est toujours en lice pour la Coupe d'Europe. Bon, après,
contrairement à d'autres,
c'est la Coupe d'Europe. C'est
la Ligue des Champions. Vous la voyez à la télé quand même. Hein.
Ben non, il y a personne qui la regarde à la télé. C'est fini pour tout le monde.
Bah ouais. Donc, la prochaine, vous allez la regarder à la télé.
Non. On va peut-être, si on gagne l'UEFA, on va la regarder à la télé. Mais bien sûr. Mais c'est mauvais perdant.
Oui. La mauvaise.
Profite du soleil.
Hier, ils m'ont fait mal.
Qui ça?
Hier, tous.
J'ai pas vu qui. C'est quoi,
Marseille m'a fait mal.
Non, mais c'est.
On a regardé le match d'un restaurant nulle part ailleurs là sur le vieux port. Ils nous ont tués.
Ça les prend avec Eric Dimeco. On était sous.
C'est-à-dire que les Marseillais étaient plus allemands que les Allemands hier.
Voilà. Mais je pense qu'à Paris, il a manqué la flamme hier.
Ah oui, ça c'est sûr.
Vraiment là.
Bon, c'est normal, c'est à Marseille.
Ben oui, c'est ça.
Moi, j'ai une question par rapport à ce rôle de porteur de flamme. Enfin, j'entends dans ta voix tout ce que ça représente et tout. Moi, je trouve que il y a quelque chose qui me gêne là autour. C'est ces micros. Communauté qui se réclame devoir porter la flamme. Enfin, moi, tu vois, je suis un ancien rugbyman, moustachu, paysan, chauve. Donc, du coup, au nom de ma communauté, moustachu, chauve, ancien rugbyman, paysan, j'aimerais bien pouvoir porter la flamme, quoi.
Mais vous êtes d'où, monsieur ?
Saône-et-Loire. Non, mais en dehors de Marseille.
Saône-et-Loire, ils me disent, on va prendre Obélix qui va porter la flamme. C'est un mec du patelin. Il est ancien rugbyman. C'est la gloire du village.
Non, mais ce que je veux dire, c'est que...
Go ! Moi, je suis marseillais. Voilà, moi, c'est une fierté. Je suis
habite là. Je suis
la rue des Fosséens. On me dit de porter la flamme. Ce que représentent les Jeux Olympiques. On a grandi avec ça. Les valeurs de l'olympisme. Et on vient de Marseille, de l'Olympique de Marseille. Donc, c'est les planètes qui s'alignent.
Mais ce que je veux dire, c'est que chaque micro communauté revendique son droit à porter la flamme. Ça, c'est quelque chose qui me gêne.
Moi, on m'a invité. J'ai rien revendiqué.
Ouais,
maintenant, la flamme, elle passe par le.
Elle passe par tous les départements.
Elle passe par tous les départements et on met à l'honneur les artistes, les sportifs.
Attends, parce que Redouane, il y a aussi l'actualité. C'est quatre choses cette année, notamment le stade Vélodrome rempli en juin.
C'est ça.
Attends, il y a quand même. Peu d'humoristes capables de remplir le Vélodrome.
Justement, on va en parler dans un instant, parce que comme Redon est arrivé un petit peu en retard...
On a le droit de le garder un peu.
Il a accepté de jouer les prolongations avec nous, donc avec Didier José Bové-Giro, Joël Ayana Kamoura...
S'il vous plaît, c'est un opposant politique.
Mehdi Guézard, le flic en civil. Avec l'oreillette, le mec de sécurité.
Allez, à tout de suite avec les juges en direct de Marseille.
RMC, les grandes gueules en direct de Marseille pour l'arrivée de la flamme.